Une maison de poupée de Henrik Ibsen. Traduction de Prosor. Les personnages. Thorvald Helmer, avocat. Nora, sa femme. Le docteur Rank. Madame Christine Linde. Krugstad, avocat. Les trois petits-enfants de Helmer. Anne-Marie, bonne d'enfant chez les Helmer. Hélène, bonne chez les Helmer. Un commissionnaire. L'action se passe chez les Helmer. Acte 1er. On entend le bruit d'une sonnette dans l'antichambre. Un instant après, la porte s'ouvre. Nora fait son entrée en fredonnant gaiement. Elle est en chapeau et en manteau et porte plusieurs paquets qu'elle dépose sur la table à droite. Elle laisse ouverte la porte de l'antichambre où l'on voit un commissionnaire qui porte un arbre de Noël et un panier. Il les remet à la bonne qui a ouvert la porte. Nora.
Cache bien l'arbre de Noël, Hélène. Il ne faut pas que les enfants le voient avant ce soir quand il sera garni.
Au commissionnaire, en sortant son porte-monnaie. « Combien ?» Le commissionnaire. « 50 centimes. » Nora.
« Voici une couronne, c'est bien. Le reste est pour vous. »
Le commissionnaire salue et sort. Nora ferme la porte. Elle continue à sourire gaiement en ôtant son chapeau et son manteau. Elle sort de sa poche un cornet de macarons, en mange deux ou trois, puis s'avance sur la pointe des pieds et écoute à la porte du bureau de son mari.
Nora. Ah, il est chez lui.
Elle se remet à fredonner et s'avance vers la table à droite. Helmer, de son bureau.
C'est l'alouette qui chante.
Nora, tout en ouvrant quelques paquets.
Oui.
Helmer.
C'est l'écureuil qui s'agite.
Nora.
Oui.
Helmer.
Quand l'écureuil est-il rentré?
Nora.
À l'instant.
Elle remet le sac de macarons dans sa poche et s'essuie la bouche.
« Viens ici, Thorvald, voir ce que j'ai acheté. »
Helmer. « Ne me dérange pas. » Peu après, il ouvre la porte et la plume à la main jette un coup d'œil dans le salon.
« Acheté, tu dis? Tout cela?
Le petit étourneau a-t-il de nouveau trouvé moyen de dépenser un tas d'argent? » Nora.
« Mais oui, Thorvald. Cette année, nous pouvons bien faire un peu plus de dépenses. » C'est le premier Noël où nous ne sommes pas forcés d'économiser.
Helmer.
Oui, mais nous ne devons pas être prodigues.
Nora.
Si, Thorvald, un peu, un tout petit peu, n'est-ce pas? Maintenant que tu toucheras un gros traitement et que tu gagneras beaucoup, beaucoup d'argent.
Helmer.
Oui, à partir de la nouvelle année, il faudra attendre un trimestre avant que je touche quoi que ce soit.
Nora.
Qu'est-ce que cela fait? En attendant, nous pouvons emprunter.
Helmer. Nora. Il s'approche d'elle et lui tire l'oreille en badinant.
Toujours aussi légère. Admets que j'emprunte aujourd'hui 1000 couronnes, que tu les dépenses pendant les fêtes de Noël, que la veille du Nouvel An il me tombe une tuile sur la tête et que...
Nora lui mettant la main sur la bouche.
Tais-toi, ne parle pas ainsi.
Helmer.
Admets pourtant que cela arrive, alors?
Nora.
Si une pareille chose arrivait, cela me serait vraiment bien égal d'avoir des dettes ou non.
Helmer.
Et les gens qui m'auraient prêté l'argent?
Nora.
Ces gens-là? Qui pensent à eux? Ce sont des étrangers.
Helmer.
Nora, Nora, tu es une vraie femme. Sérieusement, Nora, tu connais mes idées à ce sujet. Pas de dettes, jamais d'emprunt. Il s'introduit une sorte d'esclavage, quelque chose de laid dans toute maison fondée sur des dettes et des emprunts. Nous avons tous les deux tenu bon jusqu'à présent, et nous continuerons à le faire durant le peu de temps d'épreuve qui nous reste.
Nora, se rapprochant de la cheminée.
C'est bien, comme tu voudras, Thorvald.
Helmer, à la suivant.
Allons, allons, l'alouette ne doit pas traîner l'aile.
Quoi?
Ne voilà-t-il pas le petit écureuil qui boude?
Il ouvre son porte-monnaie.
« Nora, que crois-tu que j'ai là-dedans ?»
Nora se retourne vivement.
« De l'argent. »
Helmer.
« Tiens,
et lui tend quelques billets.
Mon Dieu, je comprends qu'il y ait beaucoup de dépenses dans un ménage aux environs de Noël.
Nora, comptant. 10, 20, 30, 40?
Merci, Thorvald. J'irai loin avec cela.
Helmer.
Il le faudra bien.
Nora.
Je n'y manquerai pas, tu peux y compter. Mais viens ici. Je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Et si bon marché. Tiens, voici de nouveaux habits pour Ivar. Et un sabre. Voici un cheval avec une trompette pour Bob. Et une poupée avec un lit pour Emmy. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Elle les abîme si vite.
Et voici des fichus et des étoffes pour les bonnes.
La vieille Anne-Marie mériterait bien plus que cela.
Helmer.
Et ce paquet-là, que contient-il?
Nora, poussant un petit cri. Eh non, Thorvald, tu ne verras ça que ce soir.
Helmer.
Bien, bien. Mais dis-moi, petite gaspilleuse, qu'est-ce qui te plairait à toi-même?
Nora.
Bah, est-ce que je me soucie de quelque chose, moi?
Helmer.
Je le croirais volontiers. Dis-moi quelque chose de raisonnable qui te tente.
Nora.
Eh bien, je ne sais vraiment pas. Ou plutôt, écoute, Thorvald.
Helmer.
Voyons.
Nora, jouant avec les boutons de son veston sans le regarder.
Si tu voulais me donner quelque chose, tu pourrais...
Helmer.
Voyons.
Nora, d'un trait.
Tu pourrais me donner de l'argent, Thorvald. Oh, rien qu'une petite somme. Ce dont tu peux disposer. Un de ces jours, je m'achèterai quelque chose avec cela.
Helmer.
Mais Nora.
Nora.
Oh que oui. Tu feras cela, cher Thorvald. Je t'en supplie. Je suspendrai l'argent à l'arbre dans une belle enveloppe de papier doré. Ne serait-ce pas drôle?
Helmer.
Comment s'appelle l'oiseau qui gaspille sans cesse?
Nora.
Oui, oui, un étourneau, je sais bien. Mais fais comme je te le dis, Thorvald. Cela me donnera le temps de réfléchir à quelque chose d'utile. N'est-ce pas raisonnable, dis?
Helmer, souriant.
Oui, si tu savais employer l'argent que je te donne et vraiment acheter quelque chose, mais il disparaît dans le ménage et passe dans mille rien. Après quoi, je dois encore débourser.
Nora.
Vraiment, Thorvald?
Helmer.
Eh oui, ma chère petite Nora.
Il lui entoure la taille.
L'étourneau est gentil, mais il lui faut tant d'argent. C'est incroyable ce qu'il en coûte à un homme de posséder un étourneau.
Nora.
Allons, comment peux-tu dire cela? J'épargne vraiment autant que je peux.
Helmer, riant.
Oh, pour cela, oui, autant que tu peux. Mais tu ne peux pas du tout.
Nora, fredonnant et souriant gaiement.
Si tu savais seulement, Thorvald, combien nous autres, alouettes et écureuils, nous avons de dépenses.
Helmer.
Tu es une singulière petite personne, absolument comme ton père. Tu as 1000 ressources pour te procurer de l'argent, mais aussitôt que tu l'as, il te coule entre les doigts. Tu ne sais jamais ce qu'il devient.
Enfin, il faut te prendre comme tu es.
C'est dans le sang.
Oui, Nora, ces choses-là sont certainement héréditaires.
Nora. Je voudrais avoir hérité de bien des qualités de papa.
Helmer.
Et moi, je te veux absolument tel que tu es, mon alouette chérie. Mais écoute, une idée me vient. Tu as aujourd'hui un air, comment dire, un air un peu louche.
Nora.
Moi?
Helmer.
Oui, toi. Regarde-moi bien dans les yeux.
Nora le regarde. Helmer la menaçant du doigt.
La petite gourmande n'aurait-elle pas fait quelque escapade en ville?
Nora.
Non? Pourquoi dis-tu cela?
Helmer.
La petite gourmande n'a vraiment pas mis le nez dans la confiserie?
Nora.
Non, je t'assure, Thorvald.
Helmer.
Pas un soupçon de confiture?
Nora.
Pas du tout?
Helmer.
Pas grignoter un ou deux macarons?
Nora.
Non, Thorvald, je t'assure que non.
Helmer.
Allons, allons, je plaisante.
Nora, s'approchant de la table à droite.
L'idée ne me viendrait pas de faire quelque chose qui te déplaise.
Helmer.
Non, je le sais bien. Ne m'as-tu pas donné ta parole?
Il se rapproche de Nora.
Allez, garde tes petits mystères de Noël pour toi, ma Nora chérie. Ils seront démasqués ce soir, quand on aura allumé l'arbre.
Nora.
As-tu songé à inviter le docteur Rank à dîner?
Helmer.
Non, mais c'est inutile, cela va de soi. D'ailleurs, je l'inviterai tout à l'heure quand il viendra. J'ai commandé du bon vin. Nora, tu ne peux pas t'imaginer quelle fête je me fais de cette soirée. Nora, moi aussi, comme les enfants vont être heureux d'Orvelt. Helmer, ah, ça fait du bien de penser qu'on est arrivé à une situation stable, assurée, qu'on est largement pourvu. N'est-il pas vrai? C'est un grand bonheur que d'y songer. Nora, oh, c'est merveilleux. Helmer, tu te rappelles, le dernier? 3 semaines d'avance, tu t'enfermais tous les soirs jusqu'à minuit bien passé pour confectionner des fleurs pour l'arbre de Noël et nous faire 1000 autres surprises. Ouf, c'est l'époque la plus ennuyeuse dont je me souvienne. Nora, je ne m'ennuyais pas du tout, moi. Helmer, souriant. Mais le résultat était assez piteux, Nora. Nora, bon, tu vas me taquiner encore à ce sujet. Est-ce ma faute si le chat est entré et a tout mis en pièces? Helmer, mais non, ma petite Nora, ce n'est certes pas ta faute. Tu voulais vraiment nous faire plaisir à tous, c'est l'essentiel. Pourtant, c'est bien bon que ces temps difficiles soient passés. Nora, oui, je n'en reviens pas encore. Helmer, maintenant, je ne m'inquiéterai plus dans mon coin. Et toi, tu n'auras plus besoin d'abîmer tes chers yeux et tes jolies petites mains. Nora, battant les mains. Non, n'est-ce pas, Thorvald? Dieu, quel bonheur! Elle passe son bras sous celui de son mari. Maintenant, je vais te raconter comment j'ai pensé à nous arranger, Noël, une fois passé. On sonne. On sonne! Elle range les fauteuils du salon. Quelqu'un vient. Quel ennui! Helmer. Si c'est une visite, souviens-toi que je n'y suis pour personne. La bonne à la porte d'entrée. Madame, une dame vous demande. Nora. Faites entrer. À la bonne, à Helmer. Le docteur est entré en même temps. Helmer. Il est passé dans mon cabinet? La bonne. Oui, monsieur. Helmer entre dans son bureau. La bonne fait entrer Madame Linde, qui est en costume de voyage, puis elle ferme la porte. Madame Linde, timidement, avec quelque hésitation. Bonjour, Nora. Nora, indécise. Bonjour. Madame Linde, tu ne me reconnais pas? Nora. En effet, je ne sais pas. Mais oui, il me semble... S'écriant. Christine, c'est toi? Madame Linde. Oui, c'est bien moi. Nora. Christine, moi qui ne te reconnaissais pas. Mais comment l'aurais-je pu? Plus bas. Comme tu es changée, Christine. Madame Linde. C'est certain. Depuis 9, 10 longues années. Nora. Y a-t-il vraiment si longtemps que nous nous sommes vus? Mais oui, c'est bien cela. Oh, ces 8 dernières années. Quelle époque heureuse, si tu savais. Et te voilà en ville? Tu as fait ce long voyage en plein hiver? C'est bien courageux à toi. Madame Linde. Je suis arrivée avec le bateau ce matin. Nora. Pour passer les fêtes de Noël, naturellement. Quelle joie! Nous allons bien nous amuser. Mais ôte donc ton manteau. Tu n'as pas froid, n'est-ce pas? Elle l'aide. Voilà. Maintenant, nous allons nous asseoir commodément devant la cheminée. Non, mets-toi dans ce fauteuil. Moi, je prends la chaise à bascule. C'est ma place. Elle lui saisit les mains. Voilà que maintenant je te reconnais. Ce n'est qu'au premier instant. Pourtant, tu es un peu pâlie, Christine. Un peu maigrie aussi, Madame Linde. Et beaucoup, beaucoup vieillie, Nora. Nora. Oui, un peu. Un tout petit peu, peut-être, mais pas beaucoup. Elle s'arrête tout à coup, puis d'une voix sérieuse. Oh, quelle folle je suis. Je reste là à babiller. Ma chère bonne Christine, peux-tu me pardonner? Madame Linde. Que veux-tu dire, Nora? Nora, doucement. Pauvre Christine, tu es veuve? Madame Linde. Oui, depuis 3 ans. Nora. Je le savais. Je l'avais lu dans les journaux. Oh, Christine, tu peux me croire. J'ai souvent pensé à t'écrire à cette époque. Seulement, je remettais la lettre de jour en jour et puis il survenait quelque empêchement. Madame Linde. Je me rends si bien compte de cela. Nora. Non, Christine, cela a été bien mal à moi. Pauvre amie, par quelles épreuves tu as dû passer? Il ne t'a pas laissé de quoi vivre? Madame Linde. Non. Nora. Et pas d'enfant? Madame Linde. Non plus. Nora. Rien du tout, alors.
Madame Lind. Pas même un d'œil au cœur, un de ces regrets qui occupent.
Nora, la regardant, incrédule.
Voyons, Christine, comment est-ce possible?
Madame Lind, souriant amèrement et lui passant la main sur les cheveux.
Cela arrive quelquefois, Nora.
Nora.
Seule au monde? Comme cela doit te peser. Moi, j'ai 3 jolis enfants. Tu ne peux pas les voir pour le moment. Ils sont sortis avec leur bonne. Maintenant, tu vas tout me raconter.
Madame Lind.
Plus tard. Commence d'abord.
Nora.
Non, à toi de parler. Aujourd'hui, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux penser qu'à toi.
Il y a pourtant une chose qu'il faut que je te dise. Sais-tu le grand bonheur qui nous est arrivé ces jours-ci?
Madame Lind.
Non, qu'est-ce que c'est?
Nora.
Songe donc, mon mari a été nommé directeur de la banque.
Madame Lind.
Ton mari? Oh, quelle chance!
Nora.
N'est-ce pas? C'est si précaire d'être avocat, surtout quand on ne veut se charger que de belles et bonnes causes.
Et c'était là naturellement le cas de Thorvald, en quoi je l'approuve entièrement.
Tu penses si nous sommes heureux. Il doit occuper son poste dès le début de l'année, et alors il aura un bon traitement et de nombreuses gratifications. Avec cela, nous vivrons tout autrement qu'avant, absolument à notre guise.
Oh, Christine, je me sens heureuse et le cœur léger. C'est délicieux en vérité d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas avoir de soucis à se faire, n'est-ce pas?
Madame Lind.
Certainement. En tout cas, cela doit être bien bon d'avoir le nécessaire.
Nora.
Non, pas seulement le nécessaire, mais beaucoup, beaucoup d'argent.
Madame Lind, souriant.
Nora, Nora, à ton âge, tu n'es pas encore raisonnable.
À l'école, tu étais une grande gaspilleuse.
Nora, souriant doucement.
Thorvald prétend que je le suis encore.
Mais, menaçant du doigt.
Nora, Nora, n'est pas si folle que vous le pensez. Ah, je n'ai vraiment pas eu grand-chose à gaspiller jusqu'à présent. Il nous a fallu travailler tous les deux.
Madame Lind.
Toi aussi?
Nora.
Oui, de petites choses, des ouvrages à la main, du crochet, de la broderie, etc.
Changeant du ton.
Et autre chose encore.
Tu sais que Thorvald a quitté le ministère quand nous nous sommes mariés?
Il n'avait pas d'avancement espéré dans son bureau, et il lui fallait gagner plus d'argent qu'avant. Mais la première année, il s'est terriblement surmené. Tu comprends? Il devait chercher toutes sortes d'occupations supplémentaires et travailler du matin au soir. Ce fut au-dessus de ses forces, et il tomba gravement malade. Alors, les médecins déclarèrent qu'il devait aller dans le Midi.
Madame Lind.
C'est vrai, vous êtes restée un an en Italie.
Nora.
Oui. Cela ne fut pas facile de partir, comme tu peux bien le penser. Ivar venait de naître.
Mais, bien entendu, il le fallait.
Oh, cela a été merveilleusement beau, ce voyage. Et il a sauvé la vie à Thorvald.
Mais ce qu'il a coûté d'argent, Christine.
Madame Lind.
Je puis me le figurer.
Nora.
1200 écus. 4800 couronnes. C'est de l'argent, cela.
Madame Lind.
Oui, et dans un cas pareil, c'est un grand bonheur que d'en avoir.
Nora.
Je vais te dire. C'est papa qui nous l'a donné.
Madame Lind.
Ah, bien. C'était juste à l'époque où ton père est mort, il me semble.
Nora.
Oui, Christine. Juste à cette époque. Et pense donc, je n'ai pas pu aller le soigner. J'attendais tous les jours la naissance du petit Ivar et mon pauvre Thorvald mourant qui avait besoin de mes soins. Ce bon, cher papa. Je ne l'ai jamais revu. Oh, c'est ce que j'ai eu de plus cruel à supporter depuis mon mariage.
Madame Lind.
Tu l'aimais beaucoup, je le sais. Ainsi, vous êtes partie pour l'Italie.
Nora.
Oui, nous avions l'argent et les médecins nous pressaient. Nous sommes partis au bout d'un mois.
Madame Lind.
Et ton mari est revenu entièrement remis?
Nora.
Il se portait comme un charme.
Madame Lind.
Et ce médecin?
Nora.
Que veux-tu dire?
Madame Lind.
Je me souviens que la bonne a annoncé un docteur en faisant entrer un monsieur en même temps que moi.
Nora.
Le docteur Rank, oui. Il ne vient pas en médecin, c'est notre meilleur ami. Il vient nous voir au moins une fois par jour. Non, Thorvald n'a pas une heure d'indisposition depuis lors.
Les enfants aussi sont frais et bien portants, et moi de même.
Elle se lève d'un bond et frappe des mains.
Mon Dieu, Christine, qu'est-ce que c'est bon et délicieux de vivre et d'être heureux. Ah, mais je suis affreuse, je ne parle que de mes propres affaires.
Elle s'assied sur un tabouret à côté de Christine et s'appuie sur ses genoux.
Tu ne m'en veux pas? Dis-moi, est-ce bien vrai que tu n'aimais pas ton mari? Pourquoi l'as-tu épousée dans ce cas ?
Madame Lind. Ma mère était encore en vie, malade et sans soutien, puis j'avais mes deux petits frères à ma charge. Je ne me suis pas cru en devoir de refuser sa demande.
Nora.
Non, non, je suis sûre que tu as eu raison. Il était donc riche à cette époque ?
Madame Lind.
Il était, je crois, très à son aise, mais c'était une fortune mal équilibrée. À sa mort, tout a fondu. Il n'est rien resté.
Nora.
Alors ?
Madame Lind.
J'ai dû me tirer d'affaire à l'aide d'un petit négoce, d'une petite école que j'ai dirigée et de ce que j'ai pu trouver. Les trois dernières années n'ont été pour moi qu'une longue journée de travail sans repos. Maintenant, elle est finie, Nora. Ma pauvre mère n'a plus besoin de moi. Elle s'en est allée. Les garçons non plus. Ils sont en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
Nora.
Comme tu dois te sentir soulagée.
Madame Lind.
Non, Nora. Je ne sens qu'un vide insupportable. Plus personne pour qui se dévouer.
Elle se lève, inquiète.
Aussi, n'ai-je pas pu tenir là-bas dans ce coin perdu. Cela doit être plus facile ici de s'absorber dans une occupation, de distraire ses pensées. Si je pouvais seulement être assez heureuse pour trouver une place, du travail de bureau.
Nora.
Y songes-tu ? C'est si fatigant, et tu as tant besoin de repos. Tu ferais mieux d'aller aux eaux.
Madame Lind, s'approchant de la fenêtre.
Je n'ai pas de papa, moi, pour me payer le voyage.
Nora se leva.
Allons, ne sois pas fâchée.
Madame Lind.
C'est toi, chère Nora, qui ne dois pas m'en vouloir. Ce qu'il y a de pire dans une situation comme la mienne, c'est qu'on devient si aigri. On n'a personne pour qui travailler. Et cependant, on doit chercher, se dépenser de tous côtés. Ne faut-il pas vivre ? Alors on devient égoïste. Que te dirais-je ? Quand tu m'as fait part de l'heureuse tournure de vos affaires, je me suis encore plus réjouie pour moi-même que pour toi.
Nora.
Comment cela ? Ah oui, je comprends. Tu t'es dit que Thorvald pourrait être utile ?
Madame Lind.
Oui, je l'ai pensé.
Nora.
Il le sera, Christine. Je vais préparer le terrain bien délicatement, trouver quelque chose de gentil qui rendra Thorvald bien disposé. Oh, je tiens tant à te rendre service.
Madame Lind.
Comme c'est gentil à toi, Nora, de montrer tant d'empressement. Doublement gentil de ta part à toi, qui connais si peu les misères et les désagréments de la vie.
Nora.
Moi ? Tu crois cela ?
Madame Lind, souriant.
Mon Dieu, de petits ouvrages à la main et des babioles de ce genre. Tu es une enfant, Nora.
Nora, hochant la tête et traversant la scène.
N'en parle pas si légèrement.
Madame Lind.
Vraiment ?
Nora.
Tu es comme les autres. Vous croyez tous que je ne suis bonne à rien de sérieux.
Madame Lind.
Allons, allons.
Nora.
Que je n'ai aucune expérience du côté pénible de la vie.
Madame Lind.
Mais ma chère Nora, tu viens de me raconter toutes tes difficultés.
Nora.
Bah, c'est bagatelle.
À voix basse.
Je ne t'ai pas raconté le principal.
Madame Lind.
Que veux-tu dire ?
Nora.
Tu me traites de haut, Christine. Mais tu ne devrais pas le faire. Tu es fière d'avoir tant et si longtemps travaillé pour ta mère.
Madame Lind.
Je ne traite personne de haut. Mais c'est vrai que je suis heureuse et fière en songeant que, grâce à moi, les derniers jours de ma mère ont été tranquilles.
Nora.
Et tu es fière aussi en songeant à ce que tu as fait pour tes frères.
Madame Lind.
Il me semble que j'ai le droit de l'être.
Nora.
C'est bien ce que je pense. Maintenant, je vais te raconter quelque chose, Christine. Moi aussi, j'ai un sujet de joie et d'orgueil.
Madame Lind.
Je n'en doute pas. Mais comment l'entends-tu ?
Nora.
Parle plus bas. Pense donc, si Thorvald nous entendait. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il... Personne ne doit le savoir. Personne au monde. Excepté toi, Christine.
Madame Lind.
Mais qu'est-ce donc ?
Nora.
Viens plus près.
L'attirant près d'elle sur le canapé.
Oui, écoute. Moi aussi je puis être fière et heureuse. C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald.
Madame Lind.
Sauvée ? Comment sauvée ?
Nora.
Je t'ai parlé, n'est-ce pas, du voyage en Italie. Thorvald n'aurait pas vécu s'il n'avait pas pu aller dans le Midi.
Madame Lind.
Eh bien, ton père vous a donné l'argent nécessaire.
Nora.
Oui ? C'est ce que croit Thorvald et tout le monde, mais...
Madame Lind.
Mais ?
Nora.
Papa ne nous a pas donné un centime. C'est moi qui ai procuré l'argent.
Madame Lind.
Toi ? Une si grande somme ?
Nora.
1200 écus.
4 800 couronnes. Qu'en dis-tu ?
Madame Linde.
Mais Nora, comment as-tu fait cela ? Avais-tu gagné à la loterie ?
Nora, d'un ton de mépris.
À la loterie ?
Avec un geste de dédain.
Quel mérite y aurait-il en cela ?
Madame Linde.
Mais dans ce cas, où les as-tu pris ?
Nora, souriant mystérieusement et fredonnant.
Tralala.
Madame Linde.
Tu n'aurais jamais pu les emprunter.
Nora.
Pourquoi cela ?
Madame Linde.
Parce qu'une femme mariée ne peut pas emprunter sans le consentement de son mari.
Nora, hochant la tête.
Oh, quand il s'agit d'une femme un peu pratique, une femme qui sait s'y prendre adroitement.
Madame Linde.
Nora, je n'y suis pas du tout.
Nora.
Tu n'as pas besoin de comprendre. Il n'est pas dit que j'ai emprunté cet argent. J'ai pu me le procurer d'une autre façon.
Elle se jette sur le sofa.
J'ai pu l'avoir reçu d'un adorateur, quoi. Avec mes attraits.
Madame Linde.
Folle que tu es.
Nora.
Avoue que tu es terriblement curieuse.
Madame Linde.
Dis-moi, chère Nora, n'as-tu pas agi à l'étourdie ?
Nora, se redressant.
Est-ce une étourderie que de sauver la vie à son mari ?
Madame Linde.
Ce que je crois une étourderie, c'est qu'à son insu.
Nora.
Mais justement, il ne devait pas savoir. Mon Dieu, ne comprends-tu donc pas ? Il ne devait pas connaître la gravité de son état. C'est à moi que les médecins sont venus dire que sa vie était en danger, qu'il n'y avait qu'un séjour dans le Midi qui pouvait le sauver. Crois-tu que je n'ai pas essayé de ruser ? Je lui disais combien je serais heureuse d'aller voyager à l'étranger, comme les autres jeunes femmes. Je pleurais, je suppliais, et je lui disais qu'il devait bien songer à la position dans laquelle j'étais et se plier à mon désir. Enfin, je donnais à entendre qu'il pourrait bien contracter un emprunt. Mais alors, Christine, il fut tout près de s'emporter. Il me dit que j'étais une étourdie et que c'était son devoir de mari de ne pas obéir à mes fantaisies et à mes caprices. Bon, bon, pensais-je, on le sauvera coûte que coûte. C'est alors que je trouvai un expédient.
Madame Linde.
Et ton mari n'a pas appris par ton père que l'argent ne venait pas de lui ?
Nora.
Jamais. Papa est mort quelques jours après. J'avais pensé tout lui révéler en lui demandant de ne pas me trahir, mais il allait si mal. Hélas, je n'ai pas eu à faire cette démarche.
Madame Linde.
Et depuis, tu ne t'en es jamais confessée à ton mari ?
Nora.
Non, grand Dieu, à quoi penses-tu ? Lui, si sévère sur ce point. Et puis, Torvald, avec son amour-propre d'homme, comme cela lui serait pénible. Quelle humiliation que d'apprendre qu'il me devait quelque chose. Cela aurait bouleversé tous nos rapports. Notre doux ménage, si heureux, ne serait plus ce qu'il est.
Madame Linde.
Tu ne lui en parleras jamais ?
Nora, réfléchissant et souriant à demi.
Si, peut-être avec le temps. Après de longues, longues années, quand je ne serai plus aussi jolie qu'à présent. Ne ris pas. Je veux dire, quand Torvald ne m'aimera plus autant, quand il n'aura plus de plaisir à me voir danser, me travestir et chanter pour lui. Alors, il sera bon peut-être d'avoir sur quoi se rabattre.
S'interrompt.
Bah, ce jour ne viendra jamais. Eh bien, Christine, mon grand secret, qu'en dis-tu ?
Moi aussi, je suis bonne à quelque chose.
Tu peux croire que cette affaire m'a causé beaucoup de soucis. Il ne m'a pas été facile, en vérité, de m'exécuter à date fixe. Je vais te dire. Il y a dans les affaires une chose qu'on appelle le trimestre et une autre, l'amortissement. Et tout cela est terriblement difficile à arranger. J'ai dû économiser un peu sur tout. Sur le ménage, je n'ai pu renier que peu de choses. Il fallait que Torvald vive commodément. Les enfants non plus ne pouvaient pas être mal habillés. Tout ce que je recevais pour eux me semblait leur revenir. Mes chers petits anges.
Madame Linde.
C'est donc sur tes dépenses personnelles que tu as dû prélever tout cela.
Pauvre Nora.
Nora. Naturellement. Du reste, ce n'était que justice. Chaque fois que Torvald me donnait de l'argent pour ma toilette, je ne dépensais que la moitié. J'achetais toujours ce qu'il y avait de moins cher. Il est bien heureux, vraiment, que tout me sied, en sorte que Torvald n'a rien remarqué. Cependant, quelquefois, cela me paraît dur, Christine. C'est si doux d'être élégante, n'est-ce pas ?
Madame Linde.
Je crois bien.
Nora.
J'ai encore d'autres revenus. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de trouver beaucoup de travaux de copie. Alors, je m'enfermais et j'écrivais bien avant dans la nuit. Oh, souvent, j'étais fatiguée, fatiguée. Pourtant, c'était bien amusant de travailler pour gagner de l'argent. Il me semble presque que j'étais un homme.
Madame Linde.
Combien tu peux payer de la sorte?
Nora.
Je ne saurais te le dire au juste. Il est très difficile, vois-tu, de se débrouiller dans ces sortes d'affaires. Je sais seulement que j'ai payé tout ce que j'ai pu. Souvent, je ne savais plus où donner de la tête.
Elle sourit.
Alors, je m'imaginais qu'un vieux monsieur très riche était tombé amoureux de moi.
Madame Linde.
Quoi? Quel monsieur?
Nora.
Des bêtises. Qu'il mourait, et qu'en ouvrant son testament, on voyait écrit en grandes lettres « Tout mon argent revient à la charmante Madame Nora Elmer et lui sera versé sur le champ. »
Madame Linde.
Mais, chère Nora, quel est ce monsieur?
Nora.
Mon Dieu, mais ne comprends-tu donc pas? Le vieux monsieur n'existe pas. C'est seulement une idée qui me revenait sans cesse quand je ne voyais aucun moyen pour me procurer de l'argent. Du reste, c'est bien indifférent maintenant. Le vieux bonhomme peut être où bon lui semble. Je ne me soucie ni de lui ni de son testament, car je suis tranquille à l'heure qu'il est. Elle se lève vivement. Oh, mon Dieu, quel bonheur que d'y penser, Christine. Tranquille, pouvoir être tranquille, tout à fait tranquille, jouer avec les enfants, arranger sa maison gentiment, avec goût, comme tant d'elle veut l'avoir. Puis viendra le printemps et le beau ciel bleu. Peut-être pourrons-nous alors voyager un peu, revoir la mer. Oh, que c'est donc adorable de vivre et d'être heureuse.
On sonne.
Madame Linde se levant. On sonne. Je dois partir, peut-être.
Nora.
Non, reste. Il ne viendra personne. C'est probablement pour Torvette.
La bonne.
Pardon, madame. Il y a un monsieur qui veut parler à l'avocat.
Nora.
Au directeur, veux-tu dire?
La bonne.
Au directeur, oui. Mais comme le docteur est là, je ne savais pas...
Nora.
Qui est-ce, monsieur?
Krugstad apparaissant.
C'est moi, madame.
Madame Linde tressaille, se trouble et se tourne vers la fenêtre. Nora fait un pas vers lui et, troublée, dit à mi-voix.
Vous? Qu'y a-t-il? Que voulez-vous dire à mon mari?
Krugstad.
C'est au sujet de la banque. J'ai là un petit emploi et j'entends dire que votre mari va devenir notre chef.
Nora.
C'est vrai?
Krugstad.
Rien que des affaires ennuyeuses, madame, pas autre chose.
Nora.
Donnez-vous alors la peine d'entrer au bureau?
Elle le salue négligemment en refermant la porte de l'antichambre, puis elle se dirige vers la cheminée. Madame Linde.
Nora, qui est cet homme?
Nora.
C'est l'avocat Krugstad.
Madame Linde.
Ainsi, c'était lui?
Nora.
Tu le connais?
Madame Linde.
Je l'ai connu il y a bien des années. Il a été pendant quelque temps clerc de notaire près de chez nous.
Nora.
Oui, c'est juste.
Madame Linde.
Comme il est changé.
Nora.
Il a été, je crois, très malheureux en ménage.
Madame Linde.
Il est veuf maintenant, n'est-ce pas?
Nora.
Oui, avec un tas d'enfants. Bon, voilà que je me brûle.
Elle recule sa chaise à bascule. Madame Linde.
On dit qu'il s'occupe de toutes sortes d'affaires.
Nora.
Vraiment? C'est possible, je n'en sais rien. Mais ne parlons pas d'affaires. C'est si ennuyeux.
Le docteur Rank entre, venant du cabinet de Helmer. Rank tenant la porte entrouverte.
Non, non, je ne veux pas te déranger. J'entrerai plutôt un instant chez ta femme.
Il ferme la porte et remarque la présence de Madame Linde.
Oh, pardon, je dérange ici également.
Nora.
Pas le moins du monde.
Faisant les présentations.
Le docteur Rank, Madame Linde.
Rank.
Un nom qu'on entend souvent prononcer dans cette maison. Je crois vous avoir dépassé dans l'escalier en venant.
Madame Linde.
Oui, je monte difficilement les escaliers.
Rank.
Ah, vous êtes un peu souffrante?
Madame Linde.
Plutôt surmenée.
Rank. Pas autre chose?
Alors vous êtes probablement venue en ville pour vous reposer en courant les fêtes.
Madame Linde.
Je suis venue en ville pour chercher du travail.
Rank.
Serait-ce là un remède efficace contre le surmenage?
Madame Linde.
Il faut bien vivre, docteur.
Rank.
Oui, c'est une opinion générale. On trouve cela nécessaire.
Nora. Oh, docteur, je suis sûre que vous-même vous tenez beaucoup à vivre.
Arak.
Bien sûr que j'y tiens. Misérable comme je suis, je veux absolument souffrir aussi longtemps que possible. Tous mes patients ont le même désir. Et c'est également l'avis de ceux qui ont le moral le plus bas. Juste en ce moment, j'ai laissé l'un d'eux chez Helmer, un homme en traitement. Il y a des hôpitaux pour ces malades-là.
Madame Linde, d'une voix sourde.
Ah.
Nora.
Que voulez-vous dire?
Arank.
Oh, je parle de l'avocat Krugstad, un homme que vous ne connaissez pas. Il est corrompu jusqu'à la moelle. Eh bien, lui aussi affirme comme une chose de la plus haute importance qu'il lui faut vivre.
Nora.
Vraiment? De quoi parlait-il avec Helmer?
Rank.
Je ne sais vraiment pas. J'ai seulement entendu que cela se rapportait à la banque.
Nora.
Je ne savais pas que ce monsieur Krugstad avait affaire avec la banque.
Rank.
Mais si. On lui a trouvé une sorte d'emploi.
S'adressant à Madame Linde.
Je ne sais si chez vous aussi, il existe une espèce d'homme qui s'évertue à dénicher toutes sortes de pourritures morales. Puis, sitôt l'individu malade trouvé, il l'installe en observation en lui procurant telle ou autre bonne place. Les bien portants n'ont qu'à rester dehors.
Madame Linde.
Il faut bien avouer que ce sont surtout les malades qui ont besoin d'être soignés.
Arank, haussant les épaules.
Voilà, c'est une manière de voir qui change la société en hôpital.
Nora, qui est restée absorbée dans ses propres pensées, se met à rire en battant des mains.
Rank. Pourquoi riez-vous?
Savez-vous seulement ce que c'est que la société?
Nora.
Est-ce que je me soucie de votre assommant de société? Je riais d'autre chose, une chose si drôle. Dites-moi, docteur, tous ceux qui ont des emplois dans la banque dépendront à l'avenir de Torvald?
Rank.
C'est cela qui vous amuse tant?
Nora, souriant affreusement.
Ne faites pas attention.
Elle rôde par le salon.
Oui, c'est si amusant. C'est incroyable que Torvald ait maintenant une telle influence et sur tant de monde.
Elle tire le cornet de sa poche.
Docteur, voulez-vous des macarons?
Rank.
Tiens, des macarons? Je croyais que c'était de la contrebande ici.
Nora.
Oui, mais ceci, Christine me les a donnés.
Madame Linde.
Moi?
Nora.
Allons, allons, ne t'effraie pas. Tu ne pouvais pas savoir que Torvald me l'a défendu.
Je vais te dire, il craint pour mes dents.
Mais bah, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas, docteur?
Tenez.
Elle lui met un macaron dans la bouche.
Et toi aussi, Christine?
Quant à moi, j'en mangerai un tout petit. Deux, tout au plus.
Elle se remet à tourner dans le salon.
Me voilà démesurément heureuse. Il n'y a qu'une chose au monde dont j'ai encore une envie folle.
Rock.
Voyons, qu'est-ce que c'est?
Nora.
C'est quelque chose que j'aurais une envie folle de dire devant Torvald.
Rank.
Et pourquoi ne la diriez-vous pas?
Nora.
Je n'ose pas, c'est trop laid.
Madame Linde.
Elle est?
Rank.
En effet, dans ce cas, il vaut mieux s'en abstenir, mais à nous, vous pourriez... Qu'avez-vous si follement envie de dire devant Helmer?
Nora.
J'ai une si folle envie de dire... Sacre bleu!
Rank.
Êtes-vous folle?
Madame Linde.
Voyons, Nora.
Rank.
Vous pouvez le dire, le voici.
Nora, cachant les macarons.
Tch-tch-tch.
Helmer, sortant de son bureau, un paletot sur le bras, le chapeau à la main. Nora, s'avançant vers lui.
Eh bien, cher Torvald, tu as réussi à t'en débarrasser?
Helmer.
Oui, il vient de partir.
Nora.
Et puis-je te présenter? C'est Christine qui est venue en ville.
Helmer.
Christine? Pardonnez-moi, mais je ne sais vraiment pas...
Nora.
Madame Linde, mon cher. Madame Christine Linde.
Helmer.
Ah, très bien. Probablement, tu es l'amie d'enfance de ma femme.
Madame Linde.
Oui, nous nous sommes connues autrefois.
Nora.
Et pense donc, elle a fait ce long voyage pour me parler.
Helmer.
Comment cela?
Madame Linde.
Pas uniquement.
Nora.
Vois-tu, Christine est si adroite pour le travail de bureau et puis elle meurt d'envie d'être sous les ordres d'un homme supérieur et d'acquérir encore plus d'expérience.
Helmer.
C'est fort raisonnable à vous, madame.
Nora.
Et alors, quand elle a appris que tu étais devenu directeur de la banque, une dépêche l'a annoncé, elle s'est tout de suite mise en chemin.
N'est-ce pas, Torvald? Pour me faire plaisir, tu feras bien quelque chose pour Christine, dit.
Helmer, ce n'est pas du tout impossible. Madame est probablement veuve.
Madame Linde,
oui.
Helmer,
et vous avez l'habitude du travail de bureau?
Madame Linde,
oui, assez.
Helmer,
alors il est fort probable que je pourrais vous procurer une place.
Nora, battant des mains.
Tu vois bien?
Helmer,
vous êtes venue au bon moment, madame.
Madame Linde,
comment vous remercier?
Helmer,
oh, n'en parlons pas.
Il met son pardessus.
Mais aujourd'hui, il faudra m'excuser.
Rank,
attends, je t'accompagne.
Il va prendre sa fourrure dans l'antichambre et vient la chauffer devant la cheminée.
Nora, ne reste pas longtemps, en fait.
Helmer,
une heure, pas plus.
Nora,
tu pars aussi, Christine?
Madame Linde, mettant son manteau.
Il faut que j'aille à la recherche d'un logement.
Helmer,
nous pourrons faire un bout de chemin ensemble.
Nora, l'aidant.
C'est bien ennuyeux que nous demeurions si à l'étroit. Il nous est vraiment impossible.
Madame Linde,
à quoi penses-tu? Au revoir, chère Nora, et merci.
Nora,
au revoir. Ce soir, tu reviendras, bien entendu. Et vous aussi, docteur.
Comment, si vous allez assez bien?
Qu'est-ce à dire? Emmitouflez-vous seulement.
Ils sortent en causant par la porte d'entrée. On entend des voix d'enfants sur l'escalier.
Nora.
Les voici, les voici!
Elle court pour ouvrir. Anne-Marie entre avec les enfants.
Nora.
Entrez, entrez!
Elle se baisse et les embrasse.
Oh, mes chers adorés! Vois, Christine, ne sont-ils pas gentils?
Rank.
Ne restez donc pas dans le courant d'air.
Le docteur Rank, Helmer et Madame Linde descendent l'escalier. Anne-Marie entre au salon avec les enfants.
Nora rentre également après avoir fermé la porte.
Nora.
Comme vous avez l'air frais, gaillard. Quelle belle joue rouge. Comme des pommes et comme des roses.
Les enfants lui parlent tous à la fois pendant ce qui suit.
Vous êtes-vous amusé tant que cela?
C'est très bien.
Vraiment? Tu as tiré le traîneau avec Amy et Bob dessus? Pas possible. Tous les deux.
Ah, tu es un petit gaillard, Iba.
Oh, laisse-moi un instant avec Anne-Marie.
Ma petite poupée chérie.
Elle prend la cadette des enfants et danse avec elle.
Oui, oui, maman va danser avec Bob aussi.
Comment?
Vous avez fait des boules de neige? Oh, que j'aurais voulu en être.
Non, laisse-moi faire Anne-Marie. Je vais les déshabiller moi-même.
Laisse donc, c'est si amusant. Entre là en attendant, tu as l'air toute gelée. Il y a du café chaud pour toi à la cuisine.
La bonne enfant sort par la porte de gauche.
Nora ôte les manteaux et les chapeaux des enfants et les éparpille au hasard.
Les enfants continuent à parler.
Nora.
Pas possible! Un grand chien courait après vous?
Mais il ne mordait pas!
Non, les chiens ne mordent pas de gentilles poupées comme vous.
Iva, faut pas regarder dans les paquets.
Non, non, il y a quelque chose de vilain là-dedans.
Quoi?
Vous voulez jouer?
À quoi?
À cache-cache?
Oui,
jouons à cache-cache. Bob se cachera le premier.
Moi?
Eh bien, ce sera moi.
Nora et les enfants se mettent à jouer, criant et riant sur la scène et dans la chambre à côté. À la fin, Nora se cache sous la table. Les enfants arrivent en ouragan et la cherchent sans pouvoir la trouver. Ils entendent son rire étouffé, se précipitent vers la table, relèvent le tapis et l'aperçoivent. Cri de joie. Elle sort à quatre pattes comme pour les effrayer. Nouvelle explosion de joie. Pendant ce temps, on a frappé à la porte d'entrée sans que personne n'y ait fait attention. La porte s'entr'ouvre, on aperçoit Krokstad, il attend un moment, le jeu continue.
Krokstad.
Excusez-moi, madame Elmer.
Nora pousse un cri et se relève à moitié.
Que voulez-vous ici?
Krokstad.
Pardon, la porte d'entrée était entr'ouverte. Quelqu'un aura oublié de la fermer.
Nora se relevant.
Mon mari n'est pas à la maison, monsieur Krokstad.
Krokstad.
Je le sais.
Nora.
Alors, que voulez-vous?
Krokstad.
Vous dire un mot.
Nora.
À moi?
Bas aux enfants.
Allez chez Anne-Marie.
Quoi?
Non, le monsieur étranger ne veut pas faire de mal à maman. Quand il sera parti, nous nous remettrons à jouer.
Elle conduit les enfants dans la chambre, à gauche, et referme la porte derrière eux.
Nora, inquiète, agitée.
Vous voulez me parler?
Krokstad.
Oui, je le veux.
Nora.
Aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas encore au premier du mois.
Krugstad. Non, nous sommes à la veille de Noël. Il dépendra de vous que Noël vous apporte de la joie ou du chagrin.
Nora.
Que désirez-vous? Aujourd'hui, cela m'est vraiment impossible.
Krugstad. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne parlerons pas de cela. C'est de toute autre chose qu'il s'agit. Vous pouvez m'accorder un instant?
Nora.
Ah oui, oui, bien que...
Krugstad.
Bien. J'étais assis au restaurant Olsen et de là j'ai vu passer votre mari.
Nora.
Ah?
Krugstad. Avec une dame.
Nora.
Eh bien?
Krugstad. Puis-je vous poser une question? Cette dame était Madame Linde, n'est-ce pas?
Nora.
Oui.
Krugstad.
Elle vient d'arriver en ville?
Nora.
Oui, aujourd'hui même.
Krugstad.
C'est une amie à vous?
Nora.
Oui, mais je ne saisis pas.
Krugstad.
Moi aussi je l'ai connue autrefois.
Nora.
Je le sais.
Krugstad.
Vraiment? Vous êtes au courant?
Je le pensais bien.
Permettez-moi alors de vous demander si Madame Linde va avoir une place à la banque.
Nora.
Comment osez-vous m'interroger à ce sujet, Monsieur Krugstad? Vous, qui êtes le subordonné de mon mari. Mais puisque vous me le demandez, je vais vous le dire. Oui, Madame Linde aura une place à la banque. Et ce sera grâce à moi, Monsieur Krugstad. Maintenant, vous êtes au courant.
Krugstad.
Ainsi, j'avais deviné juste.
Nora, arpentant la scène.
Eh, on a un peu d'influence, je pense. Quoique femme, il n'est pas dit que... Quand on est dans une situation subalterne, Monsieur Krugstad, il faudrait vraiment prendre garde à ne pas froisser quelqu'un qui...
Krugstad.
Qui a de l'influence?
Nora.
Justement.
Krugstad, changeant de ton.
Madame Elmer, auriez-vous la bonté d'user de votre influence en ma faveur?
Nora.
Comment? Que signifie?
Krugstad.
Voudriez-vous avoir la bonté de faire en sorte que je garde ma modeste place à la banque?
Nora.
Que voulez-vous dire? Qui songe à vous l'enlever?
Krugstad.
Oh, inutile de jouer l'ignorante. Je comprends fort bien que votre ami n'aime pas avoir à me rencontrer, et je sais maintenant à qui je dois d'être chassée.
Nora.
Je vous assure.
Krugstad.
Enfin, en deux mots, il est encore temps, et je vous conseille d'user de votre influence pour empêcher cela.
Nora.
Mais, monsieur Krugstad, je n'ai aucune influence.
Krugstad.
Comment cela? Il me semble que vous disiez tout à l'heure.
Nora.
Ce n'était évidemment pas dans ce sens. Comment pouvez-vous croire que j'ai un pareil pouvoir sur mon mari?
Krugstad.
Oh, je connais votre mari depuis que nous avons été étudiants ensemble. Je ne crois pas que monsieur le directeur de la banque soit plus ferme que d'autres hommes mariés.
Nora.
Si vous parlez avec dédain de mon mari, je vous mets à la porte.
Krugstad.
Madame est courageuse.
Nora.
Je ne vous crains plus. Une fois le nouvel an passé, je ne tarderai pas à me libérer.
Krugstad se dominant.
Écoutez bien, madame. Si cela devient nécessaire, je combattrai pour garder mon petit emploi, comme s'il s'agissait d'une affaire de vie et de mort.
Nora.
En effet, c'est ce que je vois.
Krugstad.
Ce n'est pas seulement à cause du revenu. Ce n'est pas là l'important. Mais il y a autre chose. Enfin, je vais tout dire. Vous savez, naturellement, comme tout le monde, que j'ai commis une imprudence, il y a de cela bon nombre d'années.
Nora.
Je crois en avoir entendu parler.
Krugstad.
L'affaire n'est pas venue en justice, mais d'un seul coup, tous les chemins me furent fermés. Je débutais alors dans les sortes d'affaires que vous savez. Il fallait bien trouver quelque chose, et j'ose dire que je n'ai pas été plus mauvais que d'autres. Maintenant, je vais sortir de là. Mes fils grandissent. À cause d'eux, je dois recouvrer autant de considération que possible. Ce poste à la banque était pour moi le premier échelon, et voici que votre mari veut m'en faire descendre et retomber de nouveau dans la boue.
Nora.
Mais au nom de Dieu, monsieur Krugstad, il n'est pas en mon pouvoir de vous venir en aide.
Krugstad.
C'est la volonté qui vous manque, mais j'ai des moyens pour vous forcer à agir.
Nora.
Vous n'allez pourtant pas raconter à mon mari que je vous dois de l'argent.
Krugstad.
Et si je le faisais?
Nora.
Ce serait honteux de votre part.
Avec des larmes dans la voix.
Ce secret, qui est ma joie et ma fierté? Il l'apprendrait d'une si vilaine manière, par vous. Vous m'exposeriez au plus grand désagrément.
Krugstad.
Vous n'auriez que des désagréments? Nora vivement. Oh, faites-le plutôt. C'est vous qui en pâtirez le plus. Mon mari verra alors quelle espèce d'homme vous êtes, et vous serez bien sûr de perdre votre place.
Krugstad. Je viens de vous demander si ce ne sont que des désagréments de ménage que vous craignez.
Nora. Si mon mari apprend la chose, il voudra naturellement payer sur le champ, et alors nous serons débarrassés de vous.
Krugstad faisant un pas vers elle. Écoutez, madame Helmer, ou vous n'avez pas de mémoire, ou aussi vous ne connaissez guère les affaires. Il faut que je vous mette un peu au courant.
Nora. Comment cela?
Krugstad. À l'époque de la maladie de votre mari, vous êtes venu chez moi pour emprunter 1200 écus.
Nora. Je ne connaissais personne d'autre.
Krugstad. J'ai promis de vous procurer la somme.
Nora. Et vous me l'avez procurée?
Krugstad. J'ai promis de vous procurer la somme à certaines conditions.
Mais vous étiez alors si préoccupée par la maladie de votre mari et si pressée d'avoir l'argent du voyage que je crois que vous n'avez guère fait attention aux détails.
Voilà pourquoi il n'est pas de trop de vous les rappeler.
Eh bien, j'ai promis de vous procurer l'argent contre un reçu que j'ai écrit.
Nora.
Oui, et que j'ai signé.
Krugstad.
Bien, mais plus bas, j'ai ajouté quelques lignes par lesquelles votre père donnait sa garantie. Ces lignes, il devait les signer.
Nora.
Il devait, dites-vous? Il l'a fait?
Krugstad.
J'avais mis la date en blanc. Cela voulait dire que votre père devait indiquer lui-même la date de la signature. Vous vous souvenez de cela?
Nora.
Oui, je crois en effet.
Krugstad.
Là-dessus, je vous ai remis le reçu que vous deviez envoyer par la poste à votre père. C'est ainsi que ça s'est passé, n'est-ce pas?
Nora.
Oui,
Krugstad.
Et bien entendu, vous l'avez fait tout de suite, car 5 ou 6 jours s'étaient à peine écoulés que vous me rapportiez la quittance avec la signature de votre père. Et alors, la somme vous a été remise.
Nora.
Eh bien oui. Ne vous ai-je pas remboursé avec exactitude?
Krugstad.
À peu près. Mais pour revenir à ce que nous disions tantôt, c'était là sans doute des temps difficiles pour vous, madame.
Nora.
Oui, c'est vrai.
Krugstad.
Votre père était très malade, je crois.
Nora.
Il était mourant?
Krugstad.
Il est mort peu après.
Nora.
Oui.
Krugstad.
Dites-moi, madame Helmer, vous souviendriez-vous par hasard de la date de la mort de votre père? Je veux dire, la date exacte.
Nora.
Papa est mort le 29 septembre.
Krugstad.
C'est exact. Je m'en suis informée. Et voilà pourquoi je ne m'explique pas, et tire un papier de sa poche, certaines particularités.
Nora.
Quelles particularités? Je ne sais pas.
Krugstad.
Ce qu'il y a de particulier, madame, c'est que votre père a signé le reçu 3 jours après sa mort.
Nora se tait.
Krugstad. Pouvez-vous m'expliquer cela?
Nora continue à se taire.
Krugstad. Il est évident aussi que les mots « 2 octobre » et « l'année » ne sont pas de l'écriture de votre père, mais d'une écriture que je crois reconnaître. Enfin, cela peut s'expliquer. Votre père aura oublié de dater la signature et quelqu'un l'aura fait au hasard avant d'avoir appris sa mort. Il n'y a pas grand mal à cela. La chose essentielle, c'est la signature elle-même. Elle est bien authentique, n'est-ce pas, madame Helmer? C'est bien votre père qui a écrit son nom là.
Nora. Après un court silence, elle relève la tête et le regarde d'un air provoquant.
Non, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai écrit le nom de papa.
Krugstad.
Savez-vous bien, madame, que c'est là une confession dangereuse?
Nora.
Pourquoi cela? Sous peu, vous aurez votre argent.
Krugstad.
Une question, je vous prie. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé le papier à votre père?
Nora.
C'était impossible. Papa était si malade. Si j'avais demandé sa signature, j'aurais dû lui déclarer à quoi l'argent était destiné. Je ne pouvais pas lui dire dans l'état où il se trouvait que la vie de mon mari était menacée. C'était impossible.
Krugstad.
Il aurait mieux valu, en ce cas, renoncer à ce voyage.
Nora.
Impossible. Ce voyage devait sauver la vie de mon mari. Je ne pouvais pas y renoncer.
Krugstad.
Mais ne vous êtes-vous pas dit que vous commettiez une supercherie à mon égard?
Nora.
Je ne pouvais pas m'arrêter à cette considération. Je me souciais bien de vous. Je ne pouvais pas vous souffrir à cause de toutes les froides raisons que vous me donniez alors que vous saviez que mon mari était en danger.
Klopstadt. Madame Elmer, évidemment, vous n'avez pas une idée bien nette de ce dont vous vous êtes rendu coupable. Je puis seulement vous affirmer que ce qui a ruiné ma situation sociale n'était pas plus criminel que cela.
Nora.
Vous? Voudriez-vous me faire croire que vous auriez fait quelque chose de courageux pour sauver la vie de votre femme?
Klopstadt. Les lois ne se préoccupent pas des motifs.
Nora.
En ce cas, ce sont de bien mauvaises lois.
Klopstadt.
Mauvaises ou non, si je montre ce papier à la justice, c'est d'après elle que vous serez jugée.
Nora.
Je n'en crois rien. Une fille n'aurait pas le droit d'épargner à son vieux père mourant des inquiétudes et des angoisses. Une femme n'aurait pas le droit de sauver la vie à son mari. Je ne connais peut-être pas à fond les lois, mais je suis sûre qu'il peut être écrit quelque part que des choses pareilles sont permises. Et vous n'en saviez rien, vous qui êtes avocat? Vous me paraissez peu habile comme homme de loi, monsieur Krugstad.
Krugstad. C'est possible. Mais des affaires comme celles que nous traitons ensemble, vous admettez, n'est-ce pas, que je m'y entende?
Bien. Faites maintenant comme il vous plaira. Ce que je peux vous affirmer, c'est que si je suis chassée une seconde fois, vous me tiendrez compagnie.
Il salue et sort.
Nora réfléchit un instant, puis elle hoche la tête.
Ah, bah, il voulait m'effrayer, mais je ne suis pas si sotte.
Elle se met à ramasser les vêtements des enfants, mais s'arrête au bout d'un instant.
Mais, non, c'est impossible, puisque je l'ai fait par amour.
Les enfants à la porte de gauche.
Maman, le monsieur est parti.
Nora.
Bien, bien, je le sais, mais ne parlez à personne de ce monsieur. Vous entendez? Pas même à papa.
Les enfants.
Non, maman. Veux-tu jouer maintenant?
Nora.
Non, non, pas à présent.
Les enfants.
Mais maman, tu avais promis.
Nora.
Et je ne peux pas. Allez-vous-en, j'ai tant à faire. Allez donc, mes chers petits.
Elle les reconduit doucement et ferme la porte derrière eux. Nora s'assied sur le sofa, prend une broderie, fait quelques points, mais s'interrompt bientôt.
Non!
Elle jette la broderie, se lève, va à la porte d'entrée et appelle.
« Hélène, apporte-moi l'arbre !»
Elle s'approche de la table à gauche et ouvre le tiroir.
« Non, c'est tout à fait impossible !»
La bonne apportant l'arbre de Noël.
« Où dois-je le placer, madame ?»
Nora.
« Là, au milieu de la pièce. »
La bonne.
« Dois-je encore chercher autre chose ?»
Nora.
« Merci, j'ai ce qu'il me faut. »
La bonne sort après avoir déposé l'arbre. Nora garnissant l'arbre de Noël.
Ici, il faut des bougies, et là, des fleurs. Quel déplaisant personnage! Des bêtises, tout cela ne signifie rien. L'arbre de Noël sera beau. Je veux faire tout ce que tu veux, Dorvald. Je danserai pour toi, je chanterai.
Elmer rentre avec un rouleau de papier sous le bras.
Nora. Tiens, te voilà rentrée?
Elmer.
Oui. Quelqu'un est venu?
Nora.
Ici? Non.
Elmer.
C'est extraordinaire. J'ai vu Krogstad sortir de la maison.
Nora.
Ah, c'est juste. Krogstad est venu un instant.
Elmer.
Je le vois à ta figure. Il est venu pour te prier de parler en sa faveur.
Nora.
Oui.
Elmer.
Et tu devais le faire comme venant de toi. Tu devais me cacher qu'il était venu. Ne t'a-t-il pas demandé cela?
Nora.
Oui, Thorvald, mais...
Elmer.
Nora, Nora, et tu as pu agir ainsi. Engager une conversation avec un pareil homme et lui faire une promesse. Et par-dessus le marché, tu m'as menti.
Nora.
Je t'ai menti?
Elmer. Ne m'as-tu pas dit que personne n'était venu? Il la menace du doigt.
C'est ce que mon petit oiseau chanteur ne doit plus jamais faire. Un oiseau chanteur doit avoir le bec pur pour pouvoir gazouiller juste, jamais de fausses notes.
Il lui prend la taille. N'est-ce pas vrai?
Oui, je le savais bien.
Il la laisse aller.
Et puis, plus un mot de cette affaire.
Il s'assied devant la cheminée.
Comme il fait doux et bon ici.
Il feuillette dans ses papiers. Nora s'occupe à décorer l'arbre. Un silence.
Nora.
Thorvald.
Elmer.
Oui?
Nora.
Je me réjouis énormément d'aller après-demain au bal costumé des Steinbock.
Helmer. Et moi, je suis extrêmement curieux de la surprise que tu nous prépares.
Nora.
Oh, que c'est bête!
Helmer.
Quoi?
Nora.
Je ne peux pas trouver de costume qui vaille. Tout est absurde et insignifiant.
Helmer.
Tiens, la petite Nora pense cela maintenant.
Nora. Derrière la chaise, accoudée au dossier.
Es-tu très pressée, Torvald?
Helmer.
Oh.
Nora.
Quels sont ces papiers?
Helmer.
Des affaires de banque.
Nora.
Déjà?
Helmer.
Je me suis fait donner par les directeurs sortants plein pouvoir pour entreprendre les changements nécessaires dans le personnel et dans l'organisation des bureaux. Je vais y employer la semaine de Noël. Je veux que tout soit en ordre au nouvel an.
Nora.
C'est donc pour cela que le pauvre Krogstad...
Helmer.
Nora, en lui passant la main dans les cheveux.
Si tu n'étais pas si pressée, je t'aurais demandé un immense service, Torvald.
Helmer.
Voyons, qu'est-ce que c'est?
Nora.
Il n'y a personne qui ait autant de goût que toi. Je tiendrais tant à être à mon avantage à ce bal costumé. Torvald, ne pourrais-tu pas t'occuper de moi et décider de mon costume?
Helmer.
Ah ah, la petite entêtée appelle au secours.
Nora.
Oui, Torvald, je ne puis rien décider sans toi.
Helmer.
Bien, bien, on réfléchira et on trouvera quelque chose.
Nora.
Ah, que tu es gentil.
Elle retourne à l'arbre de Noël, un silence.
Comme ces fleurs font de l'effet. Mais dis-moi, est-ce vraiment si terrible ce qu'a fait Krogstad?
Helmer.
Il a fait des faux. Comprends-tu ce que cela veut dire?
Nora.
N'a-t-il pas pu y être poussé par la misère?
Helmer.
Oui, ou il a agi par légèreté comme tant d'autres. Je ne suis pas assez cruelle pour condamner un homme sans pitié sur un seul fait de ce genre.
Nora.
Non, n'est-ce pas, Torvald?
Helmer.
Plus d'un peut se relever, moralement, à condition de confesser son crime et de subir sa peine.
Nora.
Sa peine?
Helmer.
Mais ce chemin, Krogstad ne l'a pas choisi. Il a cherché à se tirer d'affaires avec des expédients et de l'adresse. C'est cela qu'il a moralement perdu.
Nora.
Tu crois que...
Helmer.
Pense seulement. Un pareil être, avec la conscience de son crime, doit mentir et dissimuler sans cesse. Il est forcé de porter un masque, même dans sa propre famille.
Oui, devant sa femme et ses enfants.
Et quand on songe aux enfants, c'est épouvantable.
Nora.
Pourquoi?
Helmer.
Parce qu'une pareille atmosphère de mensonge apporte une contagion et des principes malsains dans toute une vie de famille. Chaque fois que les enfants respirent, ils absorbent des germes de mal.
Nora, se rapprochant de lui.
Tu en es sûre?
Helmer.
Mais oui, chère. J'ai souvent l'occasion de le constater comme avocat. Presque tous les gens dépravés de bonheur ont eu des mères menteuses.
Nora.
Pourquoi justement des mères?
Helmer.
Cela provient le plus fréquemment des mères. Mais le père agit naturellement dans le même sens. Tous les avocats le savent bien. Malgré ça, Krogstad, pendant des années, a empoisonné ses propres enfants de son atmosphère de mensonge et de dissimulation. Voilà pourquoi je l'appelle un homme moralement perdu.
Il lui tend les mains.
Et voilà pourquoi ma gentille Nora doit me promettre de ne pas prendre fait et cause pour lui. Donne-moi ta parole.
Eh bien, qu'y a-t-il?
Tends-moi la main.
C'est cela.
Ainsi, c'est décidé. Je t'assure qu'il me serait impossible de travailler avec lui. Je ressens littéralement un malaise physique auprès de gens pareils.
Nora retire sa main et va se placer de l'autre côté de l'arbre.
Comme il fait lourd ici, et moi qui ai tant à faire.
Helmer, se levant et rassemblant ses papiers.
Il faut que je parcours une partie de ceci avant le dîner. Et puis, je penserai à ton costume. Peut-être, moi aussi, ai-je préparé quelque chose à suspendre à l'arbre dans du papier doré.
Il lui pose la main sur la tête.
Oh, mon cher petit oiseau chanteur!
Il passe dans son cabinet et referme la porte.
Nora bat après un silence.
Oh non, ce n'est pas vrai! C'est impossible! Il faut que ce soit impossible!
Anne-Marie à la porte de gauche.
Les petits réclament absolument de venir trouver leur maman.
Nora.
Non, non, non! Ne les laisse pas venir chez moi! Reste avec eux, Anne-Marie!
Anne-Marie.
Mais oui, madame!
Nora. Pâle d'épouvante.
Dépraver mes petits-enfants, empoisonner ma maison.
Elle relève la tête.
Ce n'est pas vrai. C'est faux, aussi vrai que j'existe.